Tout commence là, in utero. Nous venons tous de là. Nous avons tous été une cellule, puis deux, quatre, huit, puis des milliers de milliards de cellules. Nous avons tous été des embryons, puis des fœtus. Nous sommes nés et sommes devenus des bébés. Quel bébé étiez-vous ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Non, hélas non. Nous ne nous souvenons pas de nos bébés. C'est l'une des plus grandes énigmes de la vie. C'est comment d'être un bébé ? Je m'appelle Zoé Varier et je vous propose de vous mettre à l'écoute des bébés. Et pour mieux entendre ce qu'ils ont à nous dire, peut-être faudra-t-il que vous fassiez appel à la part de bébé qui est en vous. Nous sommes toujours avec Lauriane Rath-Fischer, enseignante-chercheuse en neurosciences, membre du Babylab de l'Université Paris-Nanterre. L'équipe de Lauriane Rath-Fischer a été la première à démontrer l'effet de l'humour sur l'apprentissage chez les bébés. Elle a démontré que les bébés réussissent mieux à utiliser un outil après une démonstration humoristique. Mais qu'est-ce que l'humour pour un bébé ? Quand et comment les bébés apprennent-ils à percevoir et à produire de l'humour ?
C'est quoi l'humour ? En fait, l'humour, c'est une situation qui est assez complexe. Déjà, c'est quelque chose de social. On n'est pas tout seul. Donc, on ne va pas forcément rire devant quelque chose de drôle si on est tout seul par rapport à si on est en groupe. Donc déjà, c'est social. Ensuite, c'est une situation qui implique quelque chose de surprenant, d'incongru.
Coucou !
Le jeu du coucou, par exemple, qui consiste à dissimuler et à faire réapparaître soudainement un visage,
coucou,
pourrait être une parfaite illustration de ce que peut être l'humour pour un bébé. L'humour est présent très tôt dans la vie des enfants. Très tôt, les bébés ont des attentes sur le monde physique et social, et toute déviation de ces attentes peut créer de l'humour. Le développement de l'humour dépend donc des connaissances du bébé sur le monde et de ses attentes. Les bébés comprennent l'humour dès l'âge de 4 mois et ils peuvent en produire eux-mêmes à partir de 7-8 mois. Rappelez-vous, Lauriane Rath-Fischer est éthologue. Elle étudie le comportement des êtres vivants, aussi bien celui des êtres humains que des animaux. Alors qu'en est-il des animaux ? Est-ce que les animaux ont eux aussi de l'humour ?
Alors, on n'a pas montré d'humour ou même de rire chez les oiseaux à ma connaissance. Mais il y a
chez les primates.
Un article qui est sorti il n'y a pas longtemps en lien avec, avec l'humour, les blagues, etc., le jeu chez les primates. Et donc, on sait qu'il y a des expressions de jeu et des expressions même de rire qui existent chez les primates. Ça existe chez les rats aussi. On a montré que si on les chatouille, ils ont des petites vocalisations de rire qu'ils ont aussi quand ils jouent avec leur partenaire. Et on a même pu montrer qu'après, ça favorise leurs apprentissages. Donc, il y a des...
Chez les rats.
Chez les rats. Donc là, il y a des pistes pour la suite. Que ce soit chez les primates ou chez les rats, il y a vraiment des pistes à explorer par rapport à l'humour.
Les dernières recherches de Lauriane Rath-Fischer portent sur le rôle de l'humour dans les apprentissages chez les bébés. Quand Lauriane Rath-Fischer a commencé ses recherches sur le développement de l'utilisation des outils chez les bébés humains, elle avait imaginé une expérience dans laquelle elle donnait un râteau à un bébé de 18 mois pour qu'il attrape un objet hors de sa portée. Les premiers résultats de ces expériences avaient été très décevants. Même après leur avoir montré comment on utilise un râteau, les bébés ne s'en servaient pas. Alors, Lauriane Rath-Fischer a eu l'idée d'ajouter de l'humour à sa démonstration. Après avoir saisi l'objet à l'aide du râteau, Lauriane Radfischer le jette en l'air derrière elle pour qu'il tombe par terre. Et elle répète ce geste 8 fois de suite pour que les bébés comprennent bien l'incongruité de la situation. Écoutez, l'effet est immédiat. Et donc là, vous lui montrez.
Ce qu'on voit, c'est qu'il ne rit pas à la première démonstration. C'est jamais à la première, il faut cette répétition.
Alors là, c'est génial parce que donc ce bébé arrive et là, il a sa grenouille verte qui est trop loin de lui. Il a le râteau dans la main, mais il n'arrive pas à utiliser le râteau.
C'est pas forcément systématique. On n'a pas un 100% apprentissage. Et on leur donne toujours 3 essais pour leur donner un...
Et là, il regarde ailleurs. Il a le râteau dans les mains, mais il regarde ailleurs.
Comment tu l'attrapes ?
Ça ne l'intéresse pas du tout, en fait.
C'est le jouet, ouais, qui ne l'intéresse pas du tout. Donc, j'ai plein de jouets pour essayer de la...
Et là, vous mettez une petite voiture. Et là, il a envie d'avoir la petite voiture, parce qu'avant, c'était un canard jaune ou un petit...
Tu peux l'attraper.
Et là...
Attends,
j'essaye
avec un autre.
Il essaye de se lever sur sa chaise, mais il n'utilise pas le râteau.
Non, tout à fait. Donc ça, c'est un des cas où ça ne marche pas. Ça ne marche pas forcément à tous les coups. Donc là, voilà, c'est à nouveau typiquement ce que fait un bébé 18 mois. Soit intéressé par l'objet, dans ce cas, il peut essayer de le chercher, de l'attraper avec la main, soit intéressé par le râteau. Et donc, manipuler le râteau et puis, des fois, s'en débarrasser.
Mais pas de corrélation.
Pas de lien. Pas de faire le lien.
Très attentif, hein, quand vous jetez...
Très attentif, oui. Ce qui est intéressant ici aussi, c'est qu'il rigole avant, en anticipation du geste.
Donc là, ça marche, l'enfant arrive. Et là, ça va être à son tour d'essayer de prendre l'objet avec le râteau.
Et on a
parfait.
On a des gestes parfaits, justement, comme ça... C'est ce qu'on a beaucoup observé dans cette étude-là.
Les études sur l'humour chez les bébés sont encore rares, mais il semblerait qu'ils favorisent les apprentissages et qu'ils développent des compétences cognitives, mais aussi sociales.
On pense que ça favorise l'affiliation. Après, il faut quand même faire attention à comment utiliser l'humour. Là, on a parlé des effets positifs de l'humour sur l'apprentissage, mais on n'a pas du tout parlé du fait que l'humour peut aussi avoir un effet négatif sur les apprentissages.
Dans certaines cultures.
Alors, même dans une culture occidentale, utiliser de l'humour dans l'enseignement, ça marche bien. Il ne faut pas en mettre trop, parce que sinon, on peut se décrédibiliser ou du coup, on peut avoir des effets néfastes sur l'attention. Et par exemple, il faut éviter d'utiliser en situation d'examen, parce que ça peut stresser les étudiants, et du coup, ils sont en train d'essayer de résoudre une ambiguïté et ne pas savoir comment répondre à une question. Donc il faut l'utiliser à bon escient. Et effectivement, sur le plan culturel, ça c'est quelque chose vers lequel on aimerait aussi aller, c'est que dans certaines cultures asiatiques, on a comparé des cultures asiatiques, notamment en Chine, utiliser de l'humour en... Chez les étudiants, ça ne fonctionne pas. Parce qu'on ne rigole pas de quelqu'un qui est au-dessus de soi dans la hiérarchie. Ça ne se fait pas, en fait. Et du coup, ça ne fonctionne pas, l'humour dans l'enseignement. Et on s'est demandé, est-ce que déjà, très tôt, au cours du développement, ça pourrait avoir un effet ? Donc, on a les collègues de Toulouse qui ont montré que la façon dont on utilise l'humour en tant que parent chez les bébés, les jeunes enfants, n'est pas la même chez les Japonais que chez les Français. Chez les Français, on va avoir tendance à taquiner facilement, même quand on ne s'appelait pas forcément au bébé, alors que les Japonais, s'ils ne s'appelaient pas au bébé, ils arrêtent tout de suite et ne le refont pas. Nous, on est un peu plus à les endurcir. Voilà. Donc, il y a effectivement des différences culturelles. Ça, c'est aussi une direction dans laquelle on aimerait bien aller chez les bébés en particulier.
Ça voudrait dire que toutes les expériences que vous avez pu faire et tout ce que vous avez pu découvrir, ça correspond à notre culture, à peut-être plus une culture occidentale, et encore, faudrait voir.
Voilà, tout à fait.
Oui, on parle des bébés français, là.
Là, on parle des bébés français, on va élargir aux bébés allemands, et puis après, on va aller vers des cultures plus éloignées au fur et à mesure pour voir comment on peut généraliser. Et pour revenir à votre question sur l'attachement, la filiation, il y a aussi des études qui montrent que quelqu'un qui fait des blagues, on va avoir moins tendance à lui faire confiance quand il nous montre quelque chose. Et donc, il y a des bébés ou des jeunes enfants qui vont moins imiter de quelqu'un qui fait des blagues régulièrement que de quelqu'un qui est plus sérieux et qui est à qui on sait qu'on peut lui faire confiance sur ce qu'il va nous montrer. Donc, ça peut aussi avoir un effet inverse sur l'apprentissage selon comment c'est utilisé.
Lauriane Radfischer aimerait justement tester des bébés d'autres cultures que la nôtre pour évaluer les différences de perception de l'humour et de son rôle dans les apprentissages. Lauriane Radfischer nous invite donc à prendre de la distance par rapport à notre ethnocentrisme. Elle nous invite aussi à faire un pas de côté et à prendre garde à notre anthropocentrisme. En effet, elle a comparé le développement de l'utilisation de l'outil chez les bébés humains et chez les bébés corbeaux. Et il se pourrait bien que les corbeaux de Nouvelle-Calédonie soient bien plus forts que nous, primates humains.
J'ai testé deux bébés corbeaux de Nouvelle-Calédonie et on m'avait dit on ne les a jamais testés pour que tu puisses faire du développement. Et donc j'ai fait cette tâche d'utilisation d'un râteau pour rapprocher quelque chose hors de portée, ce qui est complètement pas une tâche naturelle pour eux. Un râteau, quand on le prend avec le bec, on a un champ visuel qui est beaucoup plus restreint. On ne voit pas toujours la récompense. Ce n'est pas facile de diriger le râteau par rapport à un bébé qui a une main qui voit tout par-dessus. Et ces bébés corbeaux de Nouvelle-Calédonie, ils avaient 4 mois. Et dès la première utilisation d'outils, sans jamais avoir été testés sur des outils, ils ont réussi la tâche. Et je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ma thèse sur les bébés humains? Quand j'ai vu ça, j'ai vraiment été très, très surprise. Mais en fait, c'est intéressant aussi parce que ces oiseaux-là, ils sont programmés en fait pour prendre quelque chose dans le bec et explorer leur environnement avec le bec. Ils sont tout le temps en train d'explorer l'environnement avec un petit bâton dans le bec, tout le temps. Et c'est presque trop, en fait. Ils sont presque pas assez flexibles par rapport aux bébés humains qui, eux, vont faire plein de choses. C'est-à-dire, ils vont se diversifier beaucoup plus. Les bébés humains, ils vont avoir pas forcément une préférence pour les bâtons. Alors, dans ce que j'ai testé, ils préfèrent les bâtons et les balles, alors que les corbeaux de Nouvelle-Calédonie préfèrent manipuler que des bâtons. Et puis, voilà, vraiment tout le temps manipuler des bâtons et explorer leur environnement avec des bâtons. Alors que les bébés humains vont faire plein de choses. Ils vont explorer avec des bâtons, ils vont explorer avec des boules, ils vont faire plein de...
Vous voulez dire qu'ils sont moins spécialistes?
Voilà, ils sont moins spécialistes, peut-être, et du coup plus flexibles. C'est comme ça que je le définirais. Donc c'est en ça qu'ils sont peut-être plus surprenants, parce qu'ils vont apprendre sur plein de choses différentes, alors que ces bébés corbeaux de Nouvelle-Calédonie sont vraiment très spécialisés. Et donc les bébés corbeaux de Nouvelle-Calédonie vont apprendre à utiliser des outils, même s'il n'y a pas d'adulte pour leur montrer comment faire. Au bout d'un moment, ils savent faire. Parce qu'à force d'explorer tout avec un petit bâton dans la bouche, eh ben, au bout d'un moment, ça va leur arriver d'arriver à attraper un petit bout de viande ou quelque chose avec un outil. Et ça va renforcer cette action. Et ils vont finir par utiliser des outils sans avoir besoin qu'on leur montre. Alors que les bébés, il y a tout cet aspect culturel, social, qui va les pousser en fait, à apprendre des autres tout le temps. Tout le temps. Et voilà, comme ils sont très flexibles, ils vont pouvoir apprendre beaucoup plus de choses.
La rapidité d'apprentissage chez les bébés corbeaux de Nouvelle-Calédonie est impressionnante. Lauriane Radfischer me montre une vidéo.
Voilà, comme j'ai comparé des bébés humains et des bébés corbeaux, j'ai dû adapter un petit peu ma tâche. En fait, l'idée, c'est que j'ai mis ça à l'intérieur d'une boîte parce que ben, les oiseaux, je ne peux pas les garder sur les genoux pour faire la tâche. Donc l'idée, c'est que je pouvais présenter les choses de la même façon aux bébés et aux oiseaux.
Donc dans une boîte vitrée, voilà, où dedans, il y a le râteau et exactement, le petit objet.
Tout à fait. Et là, ce qu'on va voir, c'est un bébé corbeau de Nouvelle-Calédonie.
Ah la vache. Ah, la voilà, dextérité.
Quand j'ai vu ça, je me suis dit, pourquoi? Pourquoi j'ai travaillé avec les bébés humains? C'est, en fait, on voit vraiment, il est orienté comme ça, donc il ne voit même pas toujours la nourriture. À des moments, on voit que c'est hors de son champ visuel. Et donc, lui, il a 4 mois.
Et là, ce qui est hyper impressionnant, c'est la rapidité.
Alors, c'est son 8e essai. Je n'ai pas mis le premier, parce qu'effectivement, le premier, il met un peu plus de temps. Parce que c'est vraiment pas facile, mais il y arrive dès le premier essai. Et les deux que j'ai testés, qui avaient 4 mois, ils arrivent dès le premier essai. Ils sont meilleurs que les chimpanzés à cette tâche-là.
Mais ça donne envie de travailler sur les corbeaux, non ?
Oui, oui, tout à fait. c'est prévu encore.
C'est vrai ?
Oui.
En tant qu'éthologue, Lauriane Radfischer nous propose donc un tout autre point de vue sur les bébés primates humains. Et depuis 8 ans, elle a encore élargi son domaine d'investigation en travaillant avec un roboticien. Lauriane Radfischer s'inspire de ses travaux sur les robots pour essayer de mieux comprendre encore le comportement des bébés primates humains.
Là, ça s'éloigne un petit peu plus de notre propos, mais je travaille aussi en lien avec des roboticiens pour essayer de comprendre comment apprendre à un bébé à utiliser des outils et comment apprendre un robot à utiliser des outils. Et en fait, ce qu'on a réussi à montrer, ça partait d'une manip que j'ai fait avec les bébés qui n'a pas fonctionné comme je voulais. Donc c'était censé être une tâche d'utilisation d'outils, mais je peux vous la montrer aussi, dans laquelle il y avait un tube transparent, une récompense au milieu et plusieurs petits blocs. Enfin, c'était de l'outil séquentiel dans le sens où il fallait qu'ils insèrent au moins 2 petits blocs d'affilée pour pouvoir faire tomber la récompense de l'autre côté. Et donc un seul bloc n'était pas suffisant. Et sauf que mes bébés faisaient autre chose. C'est-à-dire qu'eux, par exemple, inséraient tous les blocs de n'importe quel côté du tube, ils trouvaient ça très amusant. Et une fois qu'ils étaient terminés, ils me rendaient la tâche sans avoir récupéré l'objet à l'intérieur.
La difficulté du chercheur.
Voilà, c'est ça. Et donc, oui, c'est pas toujours facile de trouver la bonne tâche. Donc, j'ai pas du tout testé la capacité que je pensais. Sauf qu'en faisant ça, certains, du coup, récupéraient l'objet malgré eux, en quelque sorte. Et après, apprenaient quelque chose de cela. Et ça a beaucoup intéressé mon collaborateur roboticien parce qu'il avait ce modèle qu'il avait testé sur ses robots où il a comparé quand on va programmer un robot, quand on va lui dire, voilà, ton but, c'est d'apprendre à utiliser cet outil. Et ils ont remarqué que le robot mettait beaucoup plus de temps à apprendre cette capacité quand on lui programmait ce but en particulier que si on lui programmait « apprends à faire des choses nouvelles ». Et si on lui disait juste que ça, apprend à faire des choses nouvelles, il apprenait à utiliser l'outil beaucoup plus rapidement que si on lui disait que son but, c'était d'apprendre à utiliser l'outil. Ces recherches en robotique permettent pour nous de mieux comprendre comment apprennent les bébés. Dans ma manip, j'avais l'impression que mes bébés apprenaient rien du tout, alors qu'en fait, au contraire, le fait d'explorer les choses à leur façon et non pas avec le but que moi, j'essayais de leur imposer, leur permettait d'apprendre plus facilement que si moi, je leur disais de
faire ça,
de récupérer l'objet et du coup, ils essayaient avec leurs doigts, ils n'y arrivaient pas.
Donc, c'est un dialogue, en fait.
Voilà, c'est exactement ça. C'est un dialogue.
Mais ça veut dire aussi que si on comprend mieux comment fonctionne et comment apprend le bébé à se servir d'un outil ou d'autre chose, ça peut servir aussi l'intelligence artificielle et à terme, ça peut servir... pour faire des robots qui seront capables de faire des tâches qui, pour l'instant, ne sont pas capables de faire.
Potentiellement. Après, on en est vraiment encore au balbutiement à ce niveau-là, au niveau des roboticiens, parce que c'est... Enfin, des robots, pardon. Parce qu'il y a tellement de choses à prendre en compte. L'importance de l'environnement, l'importance sociale, le langage. Enfin, il y a tellement de choses qu'on en est encore vraiment assez loin, je pense.
Lauriane Radfischer continue d'étudier les animaux et les oiseaux. Avant de la quitter, j'ai voulu retourner dans la volière du laboratoire pour écouter une dernière fois le chant des canaris. En portant notre regard sur les animaux, nous avons évité l'écueil de l'anthropocentrisme. Dans le prochain épisode de ce podcast, nous ferons encore un pas de côté en nous intéressant au développement des bébés dans d'autres cultures, au Mali et en Corée. Les super-pouvoirs des bébés est un podcast documenté par Anna Massardier, monté par Karen Dehay, mixé par Basile Bocquer et Baptiste Collion, réalisé par Josépha Lebrun et écrit par Zoé Varier. Les super-pouvoirs des bébés est un podcast original de France Inter.